Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour. Je reçois aujourd'hui Bernard Valero de l'agence Valero Gadon et associé. Bonjour.
Bonjour Myriam.
Bon, j'ai décidé aujourd'hui pour alléger nos esprits et surtout nous rendre peut-être un tout petit peu plus intelligents, de concentrer l'interview sur la journée de l'art et de l'architecture qui a eu lieu cette semaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de constater que l'art se disperse peut-être sur l'espace public et dans l'architecture en France, alors qu'il a été extrêmement prégnant et imposant dans l'architecture tout au long des siècles. Je sais que vous êtes un esthète féru d'art contemporain et que vous avez sur pas mal de vos projets, et nous allons en discuter, décidé de mettre à l'honneur les artistes et l'art. Entre la SGP qui demande à certains artistes d'intervenir dans les futures stations, le programme Un immeuble, une œuvre et l'art dans l'espace public, il y a 1000 occasions de mettre l'art au service des habitants et des urbains. Et qu'en pensez-vous ?
Myriam, d'abord bonjour de m'avoir invité, merci pour les compliments. Oui, je pense que c'est très important de retrouver un peu d'art contemporain ou même d'art tout court dans la cité, et de faire que ce ne soit pas simplement dans les musées ou dans les galeries qu'on puisse trouver de l'art contemporain. J'en veux pour preuve la SGP que tu as évoqué, que vous avez évoqué, mais il y a aussi, je prends l'exemple de Jean Charblé qui avait travaillé sur la station Concorde il y a très très longtemps, ou qui a travaillé à Nice sur des stations du tram, et donc on voit de plus en plus l'art contemporain, ou certains artistes en tout cas s'immiscer dans l'architecture, ce qui est très bien parce qu'on retrouve en fin de compte ce qui a existé même tout au long des siècles.
Oui, c'est ça, le classicisme français.
Exactement, et le classicisme français qui faisait qu'on donnait à l'architecte, et soit lui, soit des artistes associés, la possibilité de s'exprimer sur les bâtiments, et au fur et à mesure, on a vu cette chose se déliter, on retrouve cette chose maintenant, je trouve ça très bien, et ça permet aux citoyens, au public, de découvrir des choses, d'être interpellés dans la rue et dans la cité, sans forcément pénétrer un musée, ce que les gens ne font pas forcément.
Et alors, l'art, donc ça c'est l'art dans l'espace public, il y a eu quelques grandes expositions, Botero aux Champs-Élysées, etc. Maintenant, pour des raisons de sécurité, on en fait moins. Comment remettre l'art dans l'espace public, hein?
C'est assez compliqué parce que bon, effectivement, comme vous le dites, il y a tous ces problèmes de sécurité, et puis ça ne se prête pas à toutes les œuvres. Mettre de l'art dans l'espace public, ça, c'est souvent la sculpture qui s'imprègne, qui peut participer à l'espace public.
Parce que monumental.
Le monumental. Ce qui est intéressant dans les bâtiments, c'est de retrouver l'interaction entre une œuvre qui peut être elle graphique ou autre, mais qui fasse corps avec le bâtiment et qui soit vraiment associée. Donc dans la rue en général et dans la cité, quand on la parcourt, c'est plutôt du monumental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir associer l'œuvre d'art directement dès que le projet commence à être pensé et réfléchi.
C'est-à-dire, on est au début de la conception.
Au début de la conception.
On tricote l'œuvre avec l'artiste dès le début.
On essaye. Alors, ce que font certains maîtres d'ouvrage et, tu le sais, promoteurs privés, d'associer un bâtiment, une œuvre, on le voit de plus en plus. Ce que je trouve des fois et parfois dommage, c'est
parfois c'est un peu trop tard,
exactement,
non, dans la conception.
Exactement. Je pense qu'on devrait retrouver tous ces artistes comme un groupe qui s'appelait L'œuvre dans les années 70, qui ont fait des réalisations incroyables avec des architectes comme Puccinelli, Ange, où l'œuvre est indissociable, je dirais. Il faut casser le bâtiment pour perdre l'œuvre, et ça devient très intéressant parce qu'il y a eu une véritable synergie
entre la valeur d'usage et la valeur artistique.
Exactement, et ouais. on se rend même pas compte que le hall d'entrée, par exemple, a été travaillé par des graphistes,
des grands céramistes,
ou des grands céramistes ou des choses comme ça.
Des céramiques de Capron,
sublimes. Exactement. Et là, on a tendance maintenant à amener l'œuvre d'art, je trouve, encore un peu trop tard par rapport à la composition de l'architecture.
Alors, je sais que vous avez eu l'habitude de faire des, vous avez fait des façades,
exactement,
une ou deux façades. Racontez-moi un petit peu. Comment s'est passée l'osmose entre l'artiste, la conception, et puis surtout comment convaincre le maître d'ouvrage? Parce qu'au fond, c'est un peu ça l'idée de faire art et architecture. C'est d'abord comment on convainc pour la commande.
Alors, il y a eu deux projets comme ça intéressants. Il y en a un qui a déclenché la chose et qui a déclenché mon travail avec Jean-Charles Blais, qui est un très grand artiste que j'apprécie beaucoup. C'est le bâtiment Imagine à Necker où on a travaillé sur la façade. Et là, il n'y avait pas d'artiste, mais on a souhaité interpréter sur la façade la fonction même du bâtiment, c'est-à-dire la recherche génétique à travers ce qu'on appelle des taches sur la façade, qui est presque du tachisme, très inspiré d'un peintre comme Viala, par exemple, et qui m'a permis de comprendre qu'on pouvait apporter une signification sur la façade.
Donc l'ADN s'inscrit sur la façade. Exactement. L'ADN du bâtiment, l'ADN de la recherche, de la fonctionnalité.
Exactement. C'est-à-dire que chaque plaque de verre a sa carte. Mm-hmm. Chaque plaque de verre a son ADN, ce qui est la relation directe avec la recherche des chercheurs à l'intérieur de ce bâtiment à Necker.
Mais là, c'était peut-être pas trop difficile de convaincre le maître d'ouvrage, parce qu'il y avait une espèce d'osmose évidente.
Non, mais tu sais comme moi qu'en fait, c'est pas trop le problème de convaincre, après c'est le problème de qui paye. Ouais. Et en fait, on avait intégré ça dès le début. Mmh. Donc il n'y avait pas de problème.
C'était dans le cahier des charges
Exactement. Quand on a fait notre projet, on était en conception-construction, et c'était déjà développé sur les façades, ce qui fait qu'on devait la chose lors de la réalisation.
Et il y avait une interdiction de varianter, je suppose.
Bah oui, enfin, c'est sûr. Mais comme on travaillait avec une entreprise et qu'on était en conception-construction, il y avait une volonté commune et une vraie team pour faire la chose. Et ça m'a fait penser, lors de la réalisation du centre de santé de la Courneuve, de me dire, on a fait ce concours, là, on était tout seul et on avait commencé à interpréter sur les façades un centre de santé, des petits graphiques, un petit truc un peu simpliste. Et je me suis dit, ça s'appelle Salvador Allende, c'est un centre de santé municipal, ça gère l'universel, l'universalité. Pourquoi pas faire appel à Jean-Charles Blais, qui travaille sur des projets et des tableaux.
La figure humaine est importante.
Où la figure humaine est très importante. Il a un peu changé sa peinture dernièrement et c'est très intéressant. Et je me suis dit, pourquoi pas travailler avec lui dès le début sur une interprétation de l'universalisme. Donc une tête qui représente tout le monde ou personne. Et donc on a constellé le bâtiment avec ça et on a même mis dans l'appel d'offres une tête d'une tonne en acier qui est suspendue dans le hall, qu'il a dessiné sur place. On a fait une maquette grandeur nature qui fait 3x3 sur des papiers. J'ai un petit peu le making of de tout ça et c'était très intéressant parce que à partir d'un vrai tableau, il en a fait une toute petite tête de 2x2, 2 cm par 2 cm, qu'on est venu sérigraphier sur toutes les façades. Et on l'a fait autant en sérigraphie sur la face 1. Donc la sérigraphie, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme des émaux.
D'imprimer un peu le verre.
Exactement, mais c'est comme des émaux, donc ça ne peut pas se détruire. Et on l'a fait sur les façades en métal, soit en emboutissant les façades avec la même tête, soit en perforant la façade, ce qui donne des ombres à l'intérieur assez intéressantes. Et donc on s'est dit, on est à la Courneuve, les gens ne vont pas forcément au musée, le centre de santé est pratiqué
par tout le monde,
par des milliers de personnes qui ne vont pas forcément.
Et alors,
au musée.
Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que lorsqu'on attend le médecin, on attend on est dans le hall, on attend. Oui. Et donc, l'esprit peut divaguer, soit sur son téléphone, malheureusement, c'est les 3/4 du temps, c'est ça, mais soit divaguer, justement, à regarder ses œuvres. Comment ça se passe, cette espèce de pédagogie?
En fait, que ce soit pour Necker, qu'on n'a pas encore pu poser, ou pour la Courneuve, il y a une espèce de totem à l'entrée qui explique, en fin de compte, cette composition. Après, est-ce que les gens lisent ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'on est forcément obligé de leur donner une explication? Je ne sais pas. Toujours est-il que quand ils rentrent à la Courneuve et qu'ils attendent le médecin, ils voient dans les salles d'attente, il y a sur le sol les ombres de ces petites têtes. Ça interpelle. Après, est-ce qu'ils trouvent ça bien ou pas?
Ça peut être un jeu.
Ça peut être un jeu. C'est presque une marelle par terre. Les enfants peuvent jouer avec. Bien sûr. Donc c'est assez intéressant de voir le comportement des uns des autres. Après, est-ce qu'ils font tous attention? Je sais pas. Moi, j'ai essayé d'apporter une...
Alors, donc ça veut dire que l'art apaise?
En tout cas, l'art...
L'art dans l'architecture apaise?
En tout cas, je crois au fait que quand on attend comme ça dans des lieux médicalisé, où on va toujours un petit peu inquiet parce qu'on ne sait pas ce qui arrive, on peut regarder autre chose que ses chaussures ou son téléphone. Après, est-ce que les gens le font? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on essaye de faire ça. Par exemple,
c'est un appel à la poésie.
Exactement. Et là, tu fais un truc qui est assez sympa, c'est que quand on va à Imagine pour ces maladies génétiques très graves, maladies orphelines, j'ai toujours pensé que les enfants pouvaient sortir avec leurs parents et puis regarder les façades et interpréter ces slots sur les façades un petit peu comme quand nous, on regarde les nuages et on voit des formes différentes. Et en fait, c'est un peu, effectivement, on fait appel à l'imaginaire et on se dit, voilà, le gamin sort, c'est compliqué ce qu'il a, peut-être qu'il va s'attarder 5 minutes sur cette façade et interpréter avec ses parents.
Alors là, on parle de bâtiments publics, on parle d'une réaction et d'un univers formidable parce qu'il interpelle de suite. Comment fait-on pour introduire l'art dans l'habitat? Comment fait-on pour justement réduire l'art quelque part, mais d'une manière intime, domestique, à quelque chose qui apporte, qui apaise, qui intègre une personnalisation d'un bâtiment et qui aide justement à domestiquer d'une manière créative ce hall.
Je pense que c'est une volonté de tous les archis de pouvoir apporter dans le bâtiment et dans l'habitat, d'ailleurs dans toute construction, une composition contemporaine de l'art. Après se pose le problème de l'argent, qui est le nerf de la guerre. Déjà, quand on construit un immeuble de logement, et tu le sais, on a des budgets très serrés.
Souvent, il reste même pas 3 francs 6 sous pour faire des beaux luminaires.
Exactement, et très peu d'argent quand on fait le hall. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours un peu tiraillé par rapport à ça. La Courneuve, qui est un bâtiment public, c'est moi qui ai pris sur mes honoraires de faire travailler Jean-Charles Blé. Je n'ai pas eu de 1%, puisque c'est des choses qui ne sont pas forcément obligatoires. Donc, j'ai choisi de donner... pour le faire.
Partie des autres.
Voilà, personne ne le sait.
Les anneaux en bâtiment public, c'est pas tout à fait la même chose qu'en logement.
Non, je suis d'accord, mais je connais pas beaucoup d'archis qui donnent leurs honoraires pour faire une œuvre.
J'ai déjà donné un petit peu.
Voilà, on est deux. donc voilà. Et donc, effectivement, ce qui est très compliqué dans le logement, et on aimerait tous le faire. Alors, on essaye de composer dans le hall avec des traitements graphiques. On joue avec les faux plafonds, mais comme tu le sais, à 1500, 1600 euros du mètre carré, il est compliqué d'avoir des prestations de qualité. Et de travailler une forme ou des choses qui peuvent interpeller. Ce qui est assez dommage, c'est que certains maîtres d'ouvrage font travailler des décorateurs dans les bâtiments. Mmh. Et en fait, nous retirent cette part-là. Alors que je trouve que...
Alors justement, qu'est-ce qui fait que... Mais ça, c'est de plus en plus présent. Qu'est-ce qui fait que justement, on nous enlève cette partie-là?
Je ne sais pas.
On rajoute des décorateurs avec des honoraires qui parfois... frôle, on va dire, l'indécence, on va dire gentiment. Qu'est-ce qui fait qu'on nous enlève cette... Et on donne le sentiment au public, aux acquéreurs, qu'un déco fera mieux le hall d'entrée qu'un archi.
Myriam, c'est le débat qu'on a depuis...
Oui, mais bon.
C'est éternel. On a toujours pensé qu'on était simplement là pour faire le clos et le couvert et d'assister le maître d'ouvrage quand il y a des problèmes techniques par la suite, alors qu'en fait, tous nos anciens... Je pense à Guimard, je pense à tous ces grands architectes, ou Malestévin, ces autres, dessiner tout jusqu'à la poignée de porte. C'est pas ce qu'on demande, nous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous retire ça comme si on ne savait pas le faire.
Pourquoi pas l'imposer dès le début quand tu fais un concours, ou quand tu, travailles sur un bâtiment?
Eh ben, parce qu'on essaye, on en parle, on demande la mission, justement, design, décoration. Oui. Même la mission mobilier nous n'est pas forcément attribuée, alors qu'on avait une vocation à faire de l'art total, c'est-à-dire de produire un bâtiment où tout est pensé.
Alors, pour mieux faire demain, comment fait-on ?
C'est une bonne question. Continue à essayer de convaincre les maîtres d'ouvrage. Certains sont très éclairés, il n'y a pas de problème. Je vois Next City qui a construit avec Link City. C'est Link City ou Next City ? Next City, je crois aussi. Et Policité qui ont travaillé sur les bâtiments du monde. Ils ont fait travailler Georges Rousse.
C'est formidable.
Formidable. Moi, j'ai emmené Georges Rousse sur la prison de Fleury-Mérogis. Puisque c'est un bâtiment qui est en déconstruction pour travailler sur une œuvre qui donc est éphémère, photographiée puis détruite. Bon, les choses ne vont peut-être pas se faire parce que ça coûte de l'argent et que j'ai pas l'argent. Enfin voilà, donc j'essaye de porter les initiatives. Après, il faut tomber sur des gens.
Bon, alors on lance un appel parce qu'il y a quand même beaucoup d'auditeurs sur Radio Imo et dans cette émission, et donc on lance un appel à l'esprit artistique, créatif des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre qui se rencontreront peut-être sur une œuvre d'art pour l'habitat de demain.
Et je dois préciser que ce n'est pas forcément très cher.
Merci chers auditeurs et à bientôt sur Radio Imo.
Merci Myriam.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant.